Un jour de printemps 2013. Une dune, du sable, de l'eau, une plage donc. Un ciel gris avec un peu de bleu, une mer qui oscille entre des gris doux, du vert, des bleus outre-mer, un vert véronèse peut-être, une baie en forme de croissant face au nord, une marée de petits coefficients. Les marées d'équinoxe sont loin. Quelques embarcations, très peu, ce n'est pas encore l'été. Un peu plus loin, les points qui ferment la baie. Pénarponte d'un côté et la pointe de Carne de l'autre côté. Et puis quelques îles. En face de nous, il y a Cross. À l'est, Rosservo. Et Carne, à l'ouest, dont nous ne voyons que le mamelon. Nous sommes trois. Kat avec ses oreillettes et ses micros pour capter les paroles. Gérard Offrette, que j'ai convoqué ici à Tréhompan, en ce jour du 22 mars 2013. Je suis Marie-Michèle Lucas, et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce monolithe qui nous protège. Une casemate, un bunker, un blockhaus, un vestige, une dépouille. Gérard Offrette est sédimentologue. Il connaît parfaitement l'épaisseur des fonds marins et les grands âges de notre planète. J'aime particulièrement sa position entre science, art et poésie. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce que dira le scientifique de ce bunker. Alors un bunker comme objet d'observation, Gérard ?
Oui, le scientifique spécialiste des bunkers, c'est donc moi, apparemment. Je ne le suis pas du tout, évidemment. Pour moi, le bunker, c'est un objet. C'est un objet, tout simplement, fait avec du sable. C'est un, on pourrait dire, un gros grain de sable. Mais ce qu'on peut en dire, c'est finalement ce qu'il va, lui, nous apprendre sur l'évolution du littoral. Et c'est de cette manière-là que le bunker m'intéresse, en plus du fait de partager avec vous.
Alors ce bunker, je l'ai observé comme artiste, et j'ai inventé cette idée sur laquelle tu me réponds qu'elle est fausse, c'est que le bunker va vers la mer. Il s'en va, il nous quitte. Il a décidé de s'en aller à la mer. Et toi, tu me réponds, c'est pas le bunker qui s'en va.
C'est pas le bunker qui s'en va, c'est la mer qui avance, n'est-ce pas? Ce que tous les travaux des géographes, essentiellement, des sédimentologues, ça n'est pas de moi, nous apprennent, c'est que en 1984, le bunker qui se trouve actuellement en haut de plage se trouvait à 50 mètres de la mer, et que donc en 28 ans il a progressé au moins, enfin la mer a avancé de 50 mètres. Voilà ce qui est intéressant, c'est-à-dire que le rivage a reculé de plus de 1,50 m par an.
Le rivage recule, la mer avance. Quel est cet espace dans lequel se trouve le bunker qui est aussi mouvant, aussi variable?
Oui, on peut dire qu'ici, on est dans un espace, et finalement, c'est à ça que me renvoie l'objet. On est sur l'estran, et on est, qui plus est, entre l'estran, la plage, et la dune. Et en fait, c'est la limite entre la mer et la terre. Mais où elle est? Où elle est? Où elle est maintenant? Personne ne peut me le dire exactement. Et en plus, si on peut le dire aujourd'hui, bah demain sera peut-être changé, le sable sera un petit peu plus loin.
Dans le roman Océan-mer d'Alessandro Baricco, le personnage du professeur a pour objet d'étude, entre guillemets, l'endroit où finit la mer. Sujet inépuisable, vague après vague, une trace fugitive s'inscrit sur le sable, juste un instant. Le temps d'être effacé par la vague suivante. Le législateur ne saurait s'en tenir à une telle attitude contemplative. L'ordonnance de Colbert, d'août 1681, définit un domaine public maritime, s'étendant jusqu'à la limite supérieure des pleines mers de vive eau de Mars, domaine inaliénable et imprescriptible. Il faudra attendre le décret de 1963 sur les lais et relais de mer pour avoir une modification de l'état du droit. Désormais, le domaine maritime est susceptible d'inclure des zones qui pourraient être envahies par la mer à l'occasion d'une onde de tempête paroxysmale, entraînant la rupture d'une digue. Si nous élargissons notre regard, nous considérerons l'estran, de point espace maritime situé entre les plus hautes et les plus basses mers, tantôt marin, tantôt terrestre, où, comme l'énonce un dicton breton, chacun peut écrire son nom. Ce texte est extrait de ton livre qui s'appelle « La mer est là ». Il relate donc la variabilité de cet espace qu'est l'estran. Nous sommes arrivés aujourd'hui, le bunker avait bougé. Il s'était... Gérard veut corriger.
Non, il n'avait pas bougé. Ce qui m'étonne, ce que tu me disais, c'est qu'il avait pu bouger, il avait pu tourner. Bon, c'est possible. Mais aujourd'hui, on a vu que les employés municipaux étaient venus rétablir, canaliser le cours de ce petit fleuve qui arrive ici. On l'appellera le Tréhompan, si on veut bien, qui arrive juste au pied du blocos. Il y a un mois, il était à l'ouest du blocos. Aujourd'hui, on a ramené du sable et le blocos se trouve presque enfoui sous ce sable que les bulldozers ont enfoui. Alors donc il n'y a pas que les éléments, mais il y a également l'activité humaine. Mais bientôt, évidemment, la mer reprendra ses droits et le cours de ce ruisseau, bien peut-être, reprendra le chemin qu'il préfère.
La grève de Tréhompan est à 5 km de Ploudalmézo et à 4 km dans l'ouest du camp de Saint-Pabu. Cette grève est en forme de croissant, avec à la pointe est l'ouvrage de Pénarponte, une casemate pour matériel de 75 ou 205 et une autre pour 50, tirant vers l'est, un observatoire avec deux cuves pour 30 CA, trois postes pour mitrailleuses et plusieurs bunkers et soutes. Cette position a été abandonnée le 6 août. À la pointe de Carne, les Allemands ont installé une position analogue, un matériel de 75 et un de 50, avec à proximité un fort bunker servant d'abri et de soute. Au milieu de la grève, à proximité d'une maison isolée, une pièce de 50 complète la défense. Je pense qu'il s'agit de notre bunker. Ce bunker est signalé sur la carte comme étant une casemate bétonnée pour canon anti-char. Alors je tire ces phrases d'un rapport qui est un rapport CIE d'Elpech que j'ai trouvé photocopié avec des très mauvaises photocopies qui datent de 1987. Mais c'est un rapport qui est daté de 1952. Donc je pense que très vite après-guerre, il y a eu peut-être des militaires à venir observer tout ce mur de l'Atlantique. Alors ce bunker appartient donc à la la forteresse de l'Europe construite par Todd entre 42 et 44 et qui a donc mis des points d'attache de la défense pour la défense de contre la mer, contre l'ennemi qui vient de la mer tout le long du littoral atlantique. Alors bien sûr, ces ouvrages nous paraissent monstrueux, décalés. C'est le monde nazi qui nous revient sans doute à la mémoire. Mais qu'est-ce ce blocos? Que sont ces objets face au temps que le géologue connaît?
Oui, si on devait remettre ces épisodes-là, ça nous semblerait effectivement très, très, très court, évidemment. Parce que moi, ce qui me plaît ici, c'est qu'on a quand même... On n'est pas ici par hasard, mais le blocos a été installé ici pour des raisons dont tu parlais, là, qui sont de décourager un débarquement. Hein. Non pas pour nous défendre, mais d'empêcher les gens de venir nous libérer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, revenons au lieu. Le lieu, il est assez extraordinaire. Juste deux petites histoires. Hein. C'est bon, mec. Tu as parlé de Carne tout à l'heure. Il y a Gagnoc aussi. Ce sont des monuments qui ont 6000 ans. Hein, des monuments, hein, des tombeaux monumentaux construits de la main des hommes, 2000 ans avant la construction des pyramides.
Je voudrais préciser, parce que ce qui me frappe et ce que Virilio relate aussi, c'est que ce sont des monuments funéraires. Et Virilio parle de ce même espace funéraire dans le blocos. Étonnamment, il peut le voir aussi comme des tombes.
Oui, voilà. Voilà une autre piste hein, symbolique hein, au niveau de la construction de ces blocos. Quand on dit que ce blocos a été construit pour empêcher des chars de débarquer, ça fait sourire. On a l'impression que, il y a eu du travail, enfin, les Allemands hein, ont finalement suscité et embauché une main-d'œuvre pour l'occuper, pour lui donner un peu d'argent et tout. Et pendant ce temps-là, ils ne faisaient pas des bêtises. Hein. Enfin, je veux dire qu'ils ne rentraient pas dans la résistance, les gens qui travaillaient. Bon, ceci étant, revenons à nos moutons, revenons à ces grands monuments hein, que nous trouvons, les grands cairns, effectivement, funéraires, qui sont des monuments fabuleux. Il faut aller à Carnes, très facile, hein, et on peut aller à Guéniocq aussi, c'est très facile, c'est extraordinaire. Et quand les monuments furent construits, bien, ils ont été construits sur une presqu'île. Au moment, il y a 6000 ans, le niveau de la mer était 10 mètres plus bas que le niveau actuel. C'est-à-dire que le rivage se trouvait, on va employer un mot savant, à la côte moins 2 des cartes marines. Voilà, donc c'était des presqu'îles et qui ont été isolées hein, du continent. Elles sont devenues des îles il y a 3000 ans environ, quoi. 3000, 4000 ans. Voilà, alors donc il y a ça. Et puis il y a une histoire extraordinaire aussi sur ce lieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pythéas. Pythéas était un Grec qui a découvert, qui a fait une expédition maritime datée de 322 ans avant Jésus-Christ. Et il est parti de la Méditerranée et il a exploré tout le monde nordique. Pythéas. Et notamment, il allait vers les îles Cassitérides et il se trouve que un jour, un paysan ici de Ploudalmézeau, qui avait été un paysan, avait été chercher du goémon et il ramène le goémon chez lui et il l'étale sur la terre. Et puis il voit quelque chose qui brille, il regarde et dans le stipe du goémon, il trouve une pièce d'or. C'était un sesterce qui avait été émis en 320 avant Jésus-Christ en Méditerranée. Voilà, donc ici, Pythéas a fait escale. 320 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Bon, peut-être qu'il avait fait une visite à Carnes ou à Guéniocq, hein, voilà. Lieu fameux. Bon, c'est une. On n'a pas retrouvé d'épave. Hein. On l'a cherché, mais on n'a jamais retrouvé d'épave. Mais bon, bref. Avant Jésus-Christ, ce lieu était déjà célèbre hein, du fait de ses monuments. Ces monuments, on ne sait pas qui les avait construits, hein, 6000 ans avant nous. Ce n'est pas les Celtes, hein, c'est d'autres peuples plates. Quelle langue parlait-il? Bon, ça, on ne sait pas. Bon, et on fait un grand saut dans le temps et on arrive donc à. Ben moi, il y a une pas loin d'ici l'église de Lampol Ploudalmézeau, dont on parlera peut-être tout à l'heure, avec un clocher extraordinaire. L'église a brûlé, mais le clocher est toujours là, et il a été construit en 1622. Et il est superbe ici. Lampol Ploudalmézeau était très riche pour une petite bourgade. Voilà. Donc 1622, il y a ça qui nous amène dans le temps, qui nous rapproche un petit peu d'aujourd'hui. Et puis effectivement, bon. Il y a les élèvements. Je ne parlerai pas de la Grande Guerre, hein, mais parlons donc de la Deuxième Guerre mondiale et de ces blocos construits donc ici entre 1943 et 44. Et puis voilà, 43-44, fièrement, ils regardent virement vers la mer et puis les Alliés débarquent en Normandie. J'oubliais de dire quelque chose. L'important, puisqu'on est ici entre Estran et Dune, la dune que nous avons là est quelque chose aussi composé de milliers, de milliards de grains de sable. Mais finalement, c'est quelque chose aussi d'éphémère. La dune est jeune. La dune n'est là que ici, là où on est, que depuis 3000 ans. Voilà, l'époque où la mer est à peu près arrivée au niveau où elle se trouve actuellement. Donc c'est un monument aussi, la dune est un monument jeune, et puis les sables qui sont là, hein, venus évidemment pour l'essentiel de la mer, risquent un jour effectivement tous aussi de retourner à la mer.